Nous continuons comme c'était prévu de parler au sujet de la modestie, de la mode avec Pigouze. Mais avant d'aborder le sujet, rappelons-nous rapidement le but, le moyen, les engagements de notre petite société, que vous connaissez déjà par cœur, mais c'est toujours bien de rappeler. Son but, c'est de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et jeunes filles, ce qui équivaut à la fidélité aux grâces du baptême, de la confirmation et de la première communion. Je ne sais bien par rapport à la communion solennelle, mais je pense que c'est la même chose. Et les moyens, c'est l'union des âmes dans la charité et la pratique de la modestie dans les habits. Je pense que ça va bien. Et les engagements, c'est la prière quotidienne avec laquelle nous avons commencé notre réunion, Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous, Ave Maria, et Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous. Voilà. Donc c'est assez simple. C'est assez simple pour notre société. Alors, si vous vous souvenez de notre plan d'une série de sujets au sujet du problème moral et pédagogique de la mode, il y avait trois sections, je vais répéter rapidement. Trois sections. La première section, c'était les fondements, quelque chose de solide, les bases sur lesquelles on va s'appuyer. Deuxièmement, on verra un jour, si Dieu veut, les enseignements pontificaux relatifs aux vêtements et à la mode. Et troisième section, ce sont des directives. Des directives, tout simplement les solutions de l'Église, que l'Église apporte à cette question, quelque chose de pratico-pratique. On est toujours dans les fondements, on a déjà vu la dernière fois, on a abordé le chapitre premier, on a parlé tout petit peu de la dignité du corps humain. Alors, un bref résumé, si vous voulez bien. Pie XII nous a rappelé que l'homme n'est pas ange, ni une bête. Il est tout petit peu ange et bête. Ou bien il n'est pas seulement l'ange ou seulement une créature matérielle. L'homme est à la fois matériel et spirituel. Nous avons vu là-dessus quatre points, en montant, de ce qui est plus bas vers ce qui est plus élevé. D'abord, que le corps humain est un habitacle, et l'habitacle est l'instrument de l'esprit. Que l'homme a besoin de matière pour pouvoir s'exprimer, voilà, les ondes sonores qui vont jusqu'à vous. Ainsi, vous pouvez écouter ou entendre ce que votre serviteur dit. Voilà, on a besoin de la matière. L'esprit a besoin de la matière pour les activités aussi immatérielles. Exemple, la science, art, poésie, amour du prochain. Il faut entrer l'amour du prochain. Il ne suffit pas seulement d'avoir une idée de l'amour du prochain. On a besoin de la matière. Deuxièmement, on a vu un deuxième point, l'esprit dans le corps. Voilà. L'homme peut connaître le bon Dieu, comment? À travers le monde matériel. Comment on reconnaît l'artiste par son chef-d'œuvre. Troisième point, pas seulement le connaître comme son créateur, comme son origine, mais que le bon Dieu est notre fin, c'est notre terminus. Nous sommes faits pour le bon Dieu. Et le dernier point de cette première partie, on a vu que Dieu n'a pas fait notre corps mortel. Voilà, nous sommes destinés à la résurrection future. Et nous avons fini avec la section que le chrétien est supérieur par rapport à un bon païen. Un bon païen, pourquoi? Il y a deux choses. Absolument. Deux choses. Pourquoi? Parce qu'il est le...
Parce qu'il fait tout pour Dieu.
Oui. Il est le membre de notre Seigneur, voilà, et il est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Très bien. Bon courage. On continue. Rappelons-nous encore une fois, qu'est-ce qu'un chrétien? Il est mort de qui? Voilà, de notre Seigneur. Il est temple de qui? Du Saint-Esprit. Il est instrument de qui pour faire quoi?
Aussi du Saint-Esprit.
Oui, pour faire quoi?
Pour se sanctifier.
Pas seulement soi-même.
Il a la mission qu'il a remplie sur la terre.
Oui. Voilà. Alors, il est instrument de Dieu dans l'œuvre de la sanctification du monde, voilà. Dans l'achèvement de la rédemption. Le bon Dieu nous a rachetés, mais il a besoin, c'est-à-dire il a voulu avoir les instruments pour que cette rédemption puisse se propager. Voilà. Et c'est pourquoi Dieu nous communique une force spéciale. Parce que si l'on doit sanctifier le monde, faire en sorte que le monde monte de ce qui est naturel, voilà. Et encore avec la nature blessée par le péché originel, et chez certains il y a encore le péché originel, vers ce qui est surnaturel, il faut un pas de géant, alors il faut une grâce spéciale. Pie XII disait souvent que la loi naturelle, inscrite par Dieu dans le cœur de tout homme, n'est pas annulée. Pas annulée. Parce que la grâce, comme une belle fleur, doit se planter sur la nature, comme dans un cœur. Voilà. Donc la loi naturelle n'est pas annulée, mais elle est intégrée. Intégrée, voilà, c'est une bande intégriste. Elle est intégrée dans la loi de notre Seigneur. Voilà. La loi de vie, on va expliquer de quelle vie il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi de vie? Ce n'est pas l'eau de vie, mais loi de vie. Loi de vie. En d'autres termes, la loi de vie, c'est la morale chrétienne. La morale chrétienne. Et le plan sur la vie. Ça va, madame?
Oui.
On verra deux points. Bon, on parle aujourd'hui de la morale chrétienne. Chaque page, d'accord? Ça c'est chrétien. Ça va? On va voir. Cette morale chrétienne est une morale surnaturelle. Surnaturel. On va tout expliquer. D'abord, on verra un petit point. Les commandements de notre Seigneur. Commandements de notre Seigneur. Il y a beaucoup d'abréviations. Ça va encore?
Oui.
C'est ça, voilà. Elle prolonge. L'ordre. La reçu de lui-même. C'est la loi d'amour. Le cœur. Le cœur. L'amour. Ensuite, on va écouter Pie XII Prima, c'est-à-dire ce qui est écrit. On a dit. Ce qui va nous intéresser davantage, on va voir justement les conséquences de tout ça. Pilouze va opposer la vérité à l'erreur en morale. On verra une erreur qui était très répandue et qui est toujours en vogue, malheureusement. Pilouze oppose la vérité à l'erreur. Nous allons voir trois points. Courage. La nouvelle morale, ça sent tout petit peu l'équipe du Conseil de la Coupande. Ensuite, la source profonde, disons source de cette nouvelle morale, de cette morale, de cette morale. Et à la fin, on va voir le précepte de la pureté. Le précepte. Courage, je vais tout expliquer. Premier point, morale chrétienne est une morale surnaturelle. Notre Seigneur exigeait souvent de ses disciples une fidélité ou la fidélité à ses commandements. Celui qui a mes commandements, c'est l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui là qui m'aime. Voilà, il parle de commandement. Et plus loin, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, etc. Comme moi-même, je gardais le commandement de mon Père, et comme je demeure dans son amour. Alors, cette fidélité que notre Seigneur exigeait des siens, de ses disciples et de nous-mêmes, est plus qu'une obéissance à l'ensemble de préceptes. Bon, comme un code, comme une sorte de code de route. Voilà, feu vert, je passe, feu rouge, on s'arrête. Il y a un peu plus. Cette fidélité, c'est avant tout fidélité à Dieu même. Par conséquent, fidélité à toute la révélation telle que notre Seigneur nous a transmise. Et se donner, révéler, nous est donné comme un dépôt. Dépôt à garder, à vivre et à communiquer aux autres. Premier point, si vous voulez bien. Les commandements de notre Seigneur prolongent l'ordre qu'il a lui-même reçu de son Père. On a vu dans la citation de tout à l'heure. Que veut dire l'expression que notre Seigneur utilise ? Garder mes commandements. Il s'agit en fait avant tout d'une docilité à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint. Voilà, c'est son rôle, son travail, son job de l'Esprit Saint, de nous enseigner. Et commence, on ne pas protester, par son Église. De nous faire comprendre et vivre tout ce que notre Seigneur, notre divin Maître, nous a dit et nous a enseigné. Et Dieu le Verbe a lui-même reçu un commandement de son Père. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce commandement ? Il y avait autre chose. Dieu le Père a demandé à faire quelque chose à son Fils. Il lui a donné un commandement. Qu'est-ce qu'il a demandé ?
Il a enseigné toutes les nations.
Oui, en certaine sorte, oui. Mais Dieu le Père a son Fils. C'est à notre Seigneur.
Oui, oui,
d'accord ? Ça s'ensuit. Premièrement, c'est notre sauveur, alors, pour c'est de sauver l'humanité, c'est tout plus simple. Deuxièmement, c'est de renouveler la phase de l'univers. Troisièmement, ce que vous avez dit un petit peu, c'est de faire connaître Dieu le Père, en fait, toute la Trinité. Voilà. C'est ce commandement pour s'agir. Et il, notre Seigneur, nous a donné un exemple d'une docilité parfaite. Il ne suffit pas seulement de recevoir un commandement, il faut l'accomplir. Je cite Évangile de Saint Jean, chapitre 6e, et ensuite 4e. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, et pour accomplir son œuvre. Même commandement. Ça va jusqu'à là? Deuxième petit point. La morale chrétienne est une morale théologale. Alors, qui peut me dire d'un seul mot, qu'est-ce que la morale chrétienne? Un seul mot.
La morale théologale.
Morale chrétienne. Ce sera un peu poétique, ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes aussi un tout poète. Alors je vous répète. C'est une vie. Vie. Alors c'est avant tout une participation à la vie même de Dieu. Et pourquoi dit-on que c'est une morale théologale? Vous comprenez théologale, le mot théologale, c'est oui, là, il y a le mot Dieu. Voilà. Parce qu'elle a son origine en Dieu, elle se termine en Dieu, en passant par les hommes. Les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité nous sont infusées, bien sûr, en baptême, avec la grâce sanctifiante et donc du Saint-Esprit. On fait tout petit peu de catéchisme. Mais à quoi servent toutes les vertus, grâces et dons? Le commentateur nous répond, ce sont des capacités surnaturelles qui nous offrent au bon Dieu, qui nous rendent capables d'adhérer avec amour à Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est en lui-même, et tel qu'il veut se donner à nous et à tout le monde. Morale chrétienne, participation à la vie même de Dieu. Par sa propre force, est-ce que l'homme peut aimer le bon Dieu? Bravo. Il est radicalement incapable. Première épître de Saint Jean, chapitre 4e. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais celui qui nous a aimé le premier. Mais l'action demande, elle attend, la réaction, notre réponse. Elle est triple, c'est de croire à son amour, c'est de nous y abandonner en pleine confiance, y demeurer sans jamais se reprendre. Il me vient par rapport à l'amour de Dieu. Voilà ce qu'on a en fait cité, Pierre. Ce n'est pas nous qui avons aimé le bon Dieu, mais c'est lui. Cette idée est d'être complètement oubliée, ou peut-être un peu mise de côté par tout l'Ancien Testament. C'est le vrai dire qu'on peut toujours piocher tout petit peu. Il y avait quelque chose, mais c'était une idée absolument étrange. L'Ancien Testament, la même chose pour l'islam. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent de l'islam parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Il n'y a pas beaucoup d'amour, c'est très, très rigide. Voilà. C'est la caserne. En fait. Alors seulement, nous pouvons aimer Dieu, aimer Notre-Dame, tous les saints, de l'amour même de Dieu. On a vu tout un peu, Dieu est amour. Celui qui demeure en amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voilà, Dieu demeure en lui, c'est vraiment Dieu. Si nous aimons ainsi le bon Dieu, nous serons capables de le communiquer aux autres. Sinon, non. Aimer Dieu n'a rien d'égoïste. On n'aime pas notre prochain parce que cela nous rapporte. Mais on aime Dieu. On aime le prochain pour qui? Pour qui on peut aimer le prochain?
Pour Dieu.
Pour Dieu. Très bien. Et pourquoi? Parce que, par exemple, le prochain est déjà en lieu, il est en grâce, déjà en état de grâce, ou bien il peut l'être un jour. Voilà. Même un djihadiste. C'est possible. C'est possible. Quand même. Donc, cela devrait nous encourager à être apôtre, voilà, à être apôtre, dans la sanctification de péché. Nous arrivons à un petit droit. Oui, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Le cœur de la morale chrétienne est une loi d'amour. Mais un amour qui a deux qualités. Je vais pas écrire ce que je vais expliquer. Un amour qui est infiniment transcendant, mais aussi transcendant, ça va, cela veut dire un amour qui excelle en son genre. Voilà. Un amour qui est supérieur. Transcendant qui va au-delà. Aussi un amour qui est exigeant. Exigeant. Il est évident que la fidélité dont nous parlons, fidélité à l'amour de Dieu, va déterminer pour un catholique, pour une catholique, un certain comportement moral. Bon, je ne sais pas, un exemple d'Afrique, je ne sais pas si j'ai déjà cité, mais la première chose qu'une bonne païenne fait après se convertir, c'est quoi? Première chose, elle se convertit, elle fait quoi? Ça se voit tout de suite.
Elle s'habille.
Elle s'habille comme il faut. Et c'est pas évident. On a fait que c'est pas. Et c'est pas. C'est pas évident. Mais elle comprend tout de suite. Elle fait d'elle-même. Voilà. Alors, suivant l'exemple de notre Seigneur, il était dans sa vie et surtout dans sa mort une sorte de révélation de l'amour de Dieu le Père pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il fait comme un exemple, comme une réponse vivante à la question. Est-ce que Dieu peut m'aimer? Ah, et comment? Notre Seigneur répond, voilà. Il vous aime, et il vous aime jusqu'à la folie de la croix. Alors, notre Seigneur est notre modèle. Notre modèle. Je vous ai donné l'exemple pour que vous agissiez comme j'agis envers vous. Citation un peu large. Évangile selon saint Jean, chapitre 13. Je vous ai donné l'exemple pour que vous agissiez comme j'agis envers vous. Il a lavé les pieds des apôtres, non parce que ses pieds, leurs pieds étaient sales. Secondaire. Il faut que les apôtres fassent la même chose. Pas seulement extérieurement, mais surtout intérieurement. Alors, notre Seigneur est notre modèle. Ainsi, la vie de nous tous doit être dans le monde le prolongement, le rayonnement de cette même révélation de l'amour de Dieu le Père pour le monde et de cette même donation d'amour du Père aux hommes en Saint-Fils. On comprend un peu mieux qu'est-ce que ça pourrait être justement le corps mystique. Le corps mystique. Notre Seigneur comme la tête et nous comme les membres. On peut ajouter Notre-Dame comme le cœur. La morale chrétienne est une loi d'amour qui excelle en son genre. On a vu que cette loi d'amour est transcendante. Elle est aussi exigeante. Voilà, la noblesse oblige. Mais voilà, si l'on ne veut pas adopter cette loi d'amour, on n'aura pas avec notre Seigneur dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une série sur un gâteau. Voilà, c'est le gâteau lui-même. Le bon Dieu nous donne l'ordre, le commandement d'aimer notre prochain. Et comment aimer? Est-ce que nous limitant à une politesse de coutume? Non. Aimer notre prochain comme le bon Dieu nous a aimés. On sait bien jusqu'à où il nous a aimés. Alors cet ordre est nouveau. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est nouveau? Parce qu'il est fondé sur une nouveauté qui n'était jamais vue dans le monde. C'est sur la mort de Dieu. L'événement nouveau est absolument unique dans l'histoire du monde. Cet ordre est nouveau aussi parce qu'il constitue pour nous tous, la loi nouvelle de la vie. Comme pour cet Africain qui se convertit. Ou comme pour votre serviteur le jour de la vêture. C'est pas une chose. Même pour le mouvement, c'est pas bien. Très bien. On arrivait jusqu'à Pidouze. Voilà. Personne ne s'est enfui. Félicitations. Deuxième point. Pidouze oppose la vérité à l'erreur au moral. Il y aura des choses qui sont très importantes. Très importantes. Nous avons déjà dit que la morale chrétienne suppose la loi naturelle. Voilà, une fleur dans une terre. On ne peut pas faire de l'angélisme. La grâce suppose la nature, comme la foi suppose la raison. Voilà, vos chiens, vos chats ne peuvent pas croire. Impossible. Parce qu'ils n'ont pas de raison. De même, nous pouvons dire que les vertus morales infusent, voilà, surnaturelles que le bon Dieu nous donne, suppose ces mêmes vertus naturelles. Voilà, on a une tempérance surnaturelle, ensuite tempérance naturelle, justice surnaturelle, justice naturelle. Même chose pour prudence, pour force. Leur exercice est nécessaire en toutes circonstances de la vie humaine. Exemple, la chasteté. Un catholique, une catholique, parce qu'il est ou elle est enfant de Dieu, doit vivre chastement, de respecter l'indissolubilité, un mot difficile, du mariage. Voilà. Mais ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Mais la même chasteté exige davantage de ce même catholique ou de cette même catholique que d'un bon païen, si on a de bon païen. Car il n'est pas seulement homme, ce catholique, ce chrétien, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire un homme normal, si je dis, non. Et non païen, voilà. Pour lui, esprit, malgré tout, doit dominer la sensualité de la chair. Mais enfant de Dieu, qui est comme un instrument de marque, voilà, comme Stradivarius, doit être accordé corps et âme aux inspirations de l'Esprit Saint. C'est plus. On exige davantage des catholiques. Et maintenant, petit point, la nouvelle morale. La nouvelle morale. De quoi s'agit-il, la nouvelle morale? Une petite introduction sublime. Un des grands combats du pape Pidouze était la lutte contre un très grave gauchissement de la morale catholique. Gauchissement qui atteint d'ailleurs tout autant la simple morale naturelle. Il ne s'agit pas d'un fléchissement sur un point particulier de la morale, ni de la difficulté nouvellement surgie d'observer le commandement de Dieu, ni de l'attaque des ennemis de l'Église contre son enseignement en la matière. Il s'agit, important, de quelque chose de plus fondamental et de plus pernicieux qu'on a nommé la nouvelle morale. La nouvelle morale. C'est pas toujours vrai le dictant tout nouveau tout bon. Expliquant. La conjonction du désordre de l'esprit induit par la philosophie personnaliste, moi, centre, et du climat délétère qui a baigné et suivi la libération de 1944-45 a été fatale pour beaucoup d'esprits trop peu attachés à la doctrine catholique. Esprit qui nourrissait en secret le désir de saisir la première occasion, et pourquoi faire, pour se débarrasser du joug trop pesant de la morale chrétienne. La libération déchaîna l'appétit de liberté à tout prix. Le personnalisme déplaça le centre de gravité de toute l'activité humaine, de telle sorte qu'un prétendu épanouissement de la personne, on l'entendait souvent ça, détrôna la poursuite de la fin dernière dans le rôle d'unificateur suprême. En poursuite. On en vint donc à placer dans la liberté personnelle le fondement de la vie morale. Moi je juge, moi je veux, etc. À faire de la conscience libérée le critère ultime de la connaissance du bien et du mal. Alors, pour ce qui concerne ce point avec Pidouze, on va se baser sur deux documents. c'est son radio-message sur l'éducation de la conscience et sur son allocution sur la morale de situation. Certains, certains libidos voudraient soustraire les normes de la morale chrétienne à la surveillance de l'autorité de l'Église, toujours l'Église qui est méchante, en ramenant la morale à la détermination de la conscience individuelle. C'est moi qui juge. Selon qui déciderait ce qui est juste ou injuste, décent ou indécent, bon ou mauvais. Citons le pape. C'est son radio-message sur la conscience chrétienne. Comment est-il possible de concilier la prévoyante disposition du Sauveur qui a confié à l'Église la sauvegarde du patrimoine moral chrétien, avec une sorte d'autonomie individualiste de la conscience. Voilà. Il y a deux écoles, il y a deux courants. Soustraire à son climat naturel, celle-ci ne peut produire que des fruits vénéneux. On ne reconnaîtra rien qu'en les confrontant avec certains caractères traditionnels de la conduite et de la perfection chrétienne, dont l'excellence est démontrée par le seul incomparable des saints. La nouvelle morale affirme que l'Église, au lieu de favoriser la loi de la liberté humaine et de l'amour, et d'y insister comme sur le juste principe moteur de la vie morale, s'appuie au contraire presque exclusivement et avec une excessive rigidité sur la fermeté et l'intransigeance des lois morales chrétiennes, en recourant souvent à des « vous êtes obligé, il n'est pas permis », qui entrent le temps d'une pédanterie avilissante. Ce même pape, voyant à quelles tristes conséquences cela menait, pour cela il n'a pas dû attendre jusqu'à notre temps, c'était assez rapide. Et dans le souci de garder ses ouailles dans l'unité de l'Esprit de notre Seigneur et dans la liberté, la vraie liberté, voilà, Pape répond nettement à tous ceux qui lui sont confiants. Chacun voit à quelles funestes conséquences conduirait un tel bouleversement des fondements même de l'éducation, voilà, de vouloir se diriger soi-même. Sans relever la manifeste inexpérience et jeunesse de jugement de ceux qui soutiennent de semblables opinions, il est bon de mettre en évidence le vice capital de cette nouvelle morale. En remettant tout critère éthique à la conscience individuelle, fermée jalousement sur elle-même et rendue arbitre absolu de ses déterminations, cette théorie, bien loin de lui aplanir le chemin, la détourne de la vraie voie qui est notre Seigneur. Philous profite ici et rappelle quelle est la mission de l'Église. Je cite. Le divin Rédempteur a confié sa révélation, dont font essentiellement partie les obligations morales, non point aux simples hommes, mais à son Église, à laquelle il a donné la mission de les guider et de garder fidèlement ce dépôt sacré. De même, l'assistance divine ordonnée à préserver la révélation d'erreurs et de déformations a été promise à l'Église et non aux individus. Et la doctrine, la morale, plein de choses. Sache prévoyance-là encore, parce que l'Église, organisme vivant, peut ainsi, avec sûreté et aisance, soit éclairer et approfondir les vérités morales, soit les appliquer en maintenant intact le fond dans les conditions variables des lieux et des temps. Vers le temps où l'Église suivait son divin maître, et non pas les consciences humaines qui changent tout le temps et qui souvent penchent vers ce qui est plus bas. Très bien. Petit 2. Source profonde de cette nouvelle morale. D'où ça vient? Cette nouvelle morale, c'est une morale qui est adaptée aux circonstances. Alors, revenons à nos deux allocutions. C'est la première allocution par rapport, c'est la morale de situation. Je cite Pilos. Aujourd'hui, nous voudrions prendre occasion, il s'adresse aux jeunes filles. Aujourd'hui, nous voudrions prendre occasion de cette réunion avec vous pour dire ce que nous pensons de certains phénomènes qui se manifestent un peu partout dans la vie de foi des catholiques, qui atteint un peu tout le monde, mais particulièrement la jeunesse et ses éducateurs, et dans votre mémoire aussi rapport en divers endroits, les traces, voilà. Ainsi, quand vous dites, confondant le christianisme avec un code de préceptes et d'interdictions, les jeunes ont le sentiment d'étouffer dans ce climat de morale impérative, il faut. Elle, ce n'est pas une infime minorité, pardon, qui jette par-dessus bord le bagage jeune. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, c'est 52. Une nouvelle conception de la loi morale. Nous pourrions nommer ce phénomène une nouvelle conception de la vie morale, puisqu'il s'agit d'une tendance de la moralité. Or, c'est sur la vérité de foi importante. C'est sur la vérité de foi que se basent les principes de la moralité. Et vous savez bien de quelle importance fondamentale il est pour la conservation et le développement de la foi que la jeune fille soit très tôt formée et se développe selon des normes morales justes et saines. Ainsi, la nouvelle conception de la moralité chrétienne touche-t-elle très directement au problème de la foi des jeunes. Tout se tient ensemble. Alors, Pilos va nous décrire les sources de cette conception de la nouvelle morale, appelée aussi, important, la morale de situation. Est-ce que ça vous dit quelque chose, morale de situation?
On l'adapte à la situation, au camp.
Voilà, il y a quelque chose de plus. D'accord, on va. Le signe distinctif de cette morale, je cite Pilos, c'est toujours la même allocution, une nouvelle morale. Le signe distinctif de cette morale est qu'elle ne se base point, en effet, sur les lois morales universelles. Vous voyez, c'est pas... Comme vous avez dit, elle veut s'adapter seulement à quelque chose de concret. Voilà, qui qu'elle manque. Comme par exemple, voilà, les lois morales universelles. Comme par exemple, les 10 commandements. Mais sur quoi? Sur les conditions ou circonstances réelles et concrètes dans lesquelles on doit agir, et selon lesquels la conscience individuelle a à juger et à choisir. Cet état de choses est unique et vaut une seule fois pour toute action humaine. C'est pourquoi la décision de la conscience, affirme les tenants de cette éthique, ne peut être commandée par les idées, les principes et les lois universelles. Alors, on peut se dire, bon, théorie, cette nouvelle morale de situation, quelque chose, ascension, ça date d'il y a 60 ans. Seulement.
Excusez-moi, c'est bien ou c'est pas bien du coup la situation?
Alors je vous donne l'exemple de l'application. Alors, c'est notre cher pape François qui dit pour la communion de divorcés. Mais en soi, on ne peut pas leur donner quand même la communion. Mais quand même, vous voyez comment est-ce qu'ils s'aiment. Ils font des efforts. Alors, pratiquement, peut-être, dans la communion. Pratiquement, oui. Dans cette circonstance, oui. La loi universelle qui dit, voilà, quelqu'un qui est en état de péché mortel ne peut pas recevoir la Sainte Communion, en soi, c'est vrai. En soi, c'est vrai. Mais dans le cas précis, peut-être faisant une exception. Pratiquement. Bon. On se souvient de procédés un peu modernistes. Vous voyez, vous avez la théorie et la pratique. Théorie et pratique. En théorie, oui, vous avez raison, mais en pratique, bon. Il faut s'adapter.
Oui, donc c'est une conception moderniste.
Ah, mais oui. Mmh. Ah, mais oui. Mmh. C'est bon?
Oui. Bon.
Mais on oublie, dit le commentateur de la locution de Pilos, que le décalogue, qu'est-ce qu'en fait le décalogue? En fait, c'est la loi naturelle. Tous les deux tableaux, c'est la loi naturelle.
Il n'y a rien de plus. Mais la parole connue par tout le monde.
Peu importe, c'est la même chose. Mmh. Mais en soi, c'est le bon Dieu qui inscrit les 10 commandements, en soi, sont inscrits dans chacun. C'est quelque chose, ça appartient à la loi naturelle. Cela n'appartient pas seulement aux chrétiens ou à notre Seigneur, aux Juifs. À la fausse conception des tenants de la morale de situation, Pilouze oppose quelque chose. Bien. Alors, je reprends. À l'éthique de situation ou à la morale de situation, Pilouze oppose ensuite 3 considérations ou maximes qui valent pour tous. La première, il concède que nous concédons que Dieu veut premièrement et toujours intention droite. Parce que le tenant de cette morale de situation disait, pourvu que j'ai une intention droite, ça suffit. Voilà. On se débrouille. En fait, c'est tout petit peu bien protestant parce qu'ils font une sorte de lien direct entre moi et le bon Dieu. Vous voyez, toi le bon Dieu. L'Église, etc., bon, c'est quelque chose un peu d'artificiel, c'est Moyen-Âge, etc. Le plus important, c'est que je sois sincère avec le bon Dieu. Voilà. Alors, Pilouze, il concède. Bon, il faut avoir une intention droite, n'est-ce pas? Toujours. Mais celle-ci ne suffit pas. Il veut aussi l'œuvre bonne. Seulement on peut faire avec une intention. On peut avoir une bonne intention, on peut penser qu'on fait bien, mais effectivement ou objectivement faire une mauvaise chose. On peut avoir une conscience qui soit tordue. Une autre deuxième considération. Il n'est pas permis de faire le mal afin qu'il en résulte un bien. Parce que pour cette morale de circonstance, on peut dire que bon, cette circonstance me pousse à faire le mal pour qu'on sorte le bien. Je sais pas, dans cette circonstance, je dois tout mentir, voilà, pour me tirer de cette affaire. Voilà. Mais non, on ne peut pas. Et la troisième, il peut y avoir des situations dans lesquelles l'homme, et spécialement le chrétien, ne saurait ignorer qu'il doit sacrifier tout, même sa propre vie. C'est important. Tous les martyrs nous le rappellent. Et ceux-ci sont fort nombreux en notre temps même. Bon, c'est 52. Bon, c'est le temps de communisme. Mais, pardon, excuse-moi. Mais la mère de Maccabée et ses fils, les saintes Perpétue et Félicité, malgré leur nouveau-né, Maria Goretti et des milliers d'autres, en même temps que l'Église vénère, aurait-il donc, contre la situation, inutilement ou même à tort, encouru la mort sanglante? Voilà. Selon la morale de la situation, elle aurait dû faire le péché pour s'en sortir. Non, certes, et ils sont dans leur sang, avec un AM, excusez-moi pour la prononciation, sang, les témoins les plus exprès de la vérité contre la mauvaise morale. Est-ce que ça va jusque-là?
Oui. Bon.
Et voilà, 10 commandements, c'est comme vraiment un code universel de l'autre qui vaut aussi en France qu'en Angleterre. Encore une autre citation de Pidouze, de son allocution sur la morale de situation. Voilà, ça, c'est ça. Des rapports essentiels entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme, entre les conjoints, entre les parents et les enfants, des rapports essentiels de communauté dans la famille, dans l'Église, dans l'État. Il résulte, entre autres choses, que la haine de Dieu, le blasphème, l'idolâtrie, la défection de la vraie foi, il y aura la négation de la foi, le perjure, l'homicide, le faux témoignage, la calomnie, l'adultère, la fornication, l'abus du mariage, etc., le vol et la rapine, la soustraction de ce qui est nécessaire à la vie, la frustration du juste salaire, l'accaparement des vivres de première nécessité et l'augmentation injustifiée des prix, la banqueroute frauduleuse, il a tenu, les manœuvres de spéculation injuste, bon, c'est fini, tout cela est gravement interdit par le législateur divin. Il n'y a pas à examiner. Quelle que soit la situation individuelle, il n'y a d'autre issue que d'obéir. Rien de chaud pour faire une mauvaise action, pour qu'un bien en ressort. On ne peut pas. L'Église nous enseigne aussi que les droits, on sent toujours bien. Et parce que ces droits, ces devoirs, ont confondement Dieu, celui qui a gravé sa loi dans le cœur de l'homme. On a déjà lu, mais je répète. Voilà. Dans la nature humaine. Voilà. On ne peut pas changer justement cela, sinon on change l'homme. Voilà. On ne peut pas changer un mode d'emploi en ne bouleversant pas les choses. Bon, on peut donner l'exemple qui est un peu bête. Voilà, c'est comme une dame qui voudrait faire sécher son chat et elle a mis où? Dans le four, à micro-ondes. On peut pas. Sinon, ça. Pour la même raison, la loi naturelle est universelle. Elle est universelle. Elle vaut pour tout homme, catholique, bouddhiste, musulman, athée, qui ne croit à rien. Ça vaut pour tous sans distinction de l'âge, temps, lieu, culture. Cette loi est immanente, voilà, comme on a dit, elle est inscrite dans notre nature. Elle est aussi transcendante, voilà. Elle excelle, elle va au-delà. Les droits et les devoirs fondamentaux de la morale naturelle se base également sur ses rapports avec Dieu, la famille, soi-même, le prochain. Les réalités de la nature, elles valent donc partout où l'homme se retrouve. Elles obligent en conscience toute personne. Ça va en Pologne, en France, en Japon. En outre, notre Seigneur a enraciné la loi naturelle dans sa loi. La loi qui est la loi d'amour, la loi de la vie, de toute l'humanité qui est régénérée dans sa mort. Et surtout pour les chrétiens, les 10 commandements sont une expression de l'unique amour dont ils doivent aimer Dieu et le prochain. Non de mots, M-O-T-S, non de mots, ni de langue, mais en acte véritablement. Je recherche la deuxième page. Je compte ça. Alors, la dernière chose que je peux vous donner, c'est une citation de Pilos. C'est par rapport au précepte de la pureté. Parce qu'on va déjà entrer davantage de ce qui concerne la mode, voilà le problème de la mode. Le commandement divin de la pureté de l'âme et du corps est également valable sans diminution pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je dis la même chose aujourd'hui, pour la jeunesse d'aujourd'hui. Elle aussi a l'obligation morale et avec l'aide de la grâce, la possibilité de se garder pur. Nous repoussons donc comme erronée l'affirmation de ceux qui considèrent comme inévitable la chute durant les années de la puberté. Voilà ce qu'il disait la nouvelle morale. Qui de la sorte ne mériterait pas qu'on en fasse grand cas pour ce papa. Comme si elle n'était pas de grave faute, parce que d'ordinaire, ajoute-t-il, la passion supprime la liberté nécessaire pour qu'un acte soit moralement imputable. Il ne s'agit pas de cette passion. Cette passion-là n'enlève pas l'usage de la raison. Au contraire, c'est une règle obligatoire et sage que, sans cependant négliger de représenter aux jeunes la noble qualité de la pureté, de manière à les amener à l'aimer et à la désirer pour elle-même, l'éducateur, voilà, c'est la fonction de l'éducateur inculque toutefois clairement le commandement comme tel, dans toute sa gravité et son importance de loi divine. On ne peut pas dire que c'est pas grave. Non, il faut dire que c'est grave, mais d'une manière douce. Il stimulera ainsi les jeunes à éviter les occasions prochaines. Il les encouragera dans la lutte dont il ne cachera pas la rigueur. Alors, c'est possible, c'est difficile, mais c'est possible. Il les incitera à accueillir courageusement les sacrifices que la vertu exige. C'est exigeant. Et il les exhortera à persévérer et à ne pas tomber dans le risque de déposer les armes dès le début et de succomber sans résistance en mauvaises habitudes. Alors, j'espère que vous êtes convaincus qu'on ne peut pas être partisan de la nouvelle morale. Oui ou pas? Alors, c'était un peu long. Je voudrais vous féliciter, on a passé par la partie la plus difficile. Courage. Ce sont des fondements. Quand on a les fondements, c'est quelque chose de solide. Il a fallu le faire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que c'était plus ou moins clair?
Oui, c'est pour le sujet de la loi naturelle. Donc, est-ce que... inscrite dans le cœur de chaque homme. J'en avais parlé à un monsieur qui m'avait dit que pour lui, il disait que non, il prenait l'exemple d'un enfant élevé par exemple chez les manouches, enfin les forains, qui apprennent aux enfants à voler, donc pour l'enfant, bah, il aura tellement été habitué dans ce milieu à voler,
mais ça après. Mais cela veut dire pour cela, il faudrait que. Bon, il y a plusieurs choses. Mais on peut donner un exemple. C'est la question d'une mauvaise éducation qui prend de mauvaises habitudes. Mais c'est tout petit peu, si on peut dire comme ça, comme la grâce, comme le don qu'on reçoit au baptême, comme un enfant reçoit au baptême. Elles sont là, mais un enfant, il pleure autant avant ou après. Il faut du temps. Il faut du temps que cela se manifeste à un moment où il y aura l'usage de la raison. Mais tout cela est là. Alors que le bon Dieu, ça c'est sûr. Vous avez un contre-exemple, vous avez un enfant de communiste, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, de communiste qui faisait à Moscou, qui faisait très attention qu'à la maison, pas même un seul mot sur le bon Dieu, sur le Dieu. Ce mot, ni en négatif, ni en positif. Voyez. Mais cet enfant, de soi-même, s'enfermait dans une chambre et prie le bon Dieu. Jamais entendu. Jamais.
Mais il avait des camarades, peut-être.
Peut-être pas.
On ne sait pas.
Non, la loi est inscrite. On peut étouffer, ça c'est sûr. Mais... On peut étouffer. Mais en soi, ce sont les premiers principes. De la morale comme le premier principe universel. Comme le premier principe universel, un enfant le comprend. Par exemple, moitié du gâteau est beaucoup plus grand qu'un quart de gâteau. Voilà, le plus, c'est plus important que le moins. Notre principe de moralité, il faut faire du bien, il ne faut pas faire le mal. Voilà.
Oui, maintenant, les gens ne sont plus d'accord, il n'y a plus de bien et de mal.
Mais d'accord, mais
c'est pas facile.
C'est autre chose. C'est bon.
Ils appellent
on peut faire tordre notre raison, mais.
Ce qui est mal, on dit que c'est bien. Et...
Oui, mais ça ne change pas que le bon Dieu a fait autrement. Il a construit la machine que l'homme avec le mode d'emploi comme ça, et il ne faut pas mettre la chatte dans le micro-ondes.
C'est ça. Oui, donc ça peut être déformé par l'éducation, voilà. Puis à un moment donné, peut-être que le bon Dieu donne une lumière quelconque pour que la personne se rende compte que son éducation était mauvaise.
Oui, suppose. Vous avez l'exemple, je ne sais plus le nom, mais c'est un communiste qui était. En Espagne, qui a fusillé la figure du Sacré-Cœur, ensuite s'est converti, était un grand apôtre de Fatima. Je ne me souviens pas son nom, je ne vais pas dire de bêtises. C'est possible. Imaginez quelqu'un qui fusille même la statue du Sacré-Cœur, qui apporte Notre-Dame. Bon, c'est possible. Ça va? Bien. Alors, pour la prochaine fois, on va voir, ce sera le chapitre 3e. Ça sera enseignement pontificaux relatif aux vêtements et à la mode. On va voir, si Dieu veut, la triple finalité du vêtement. Là, on a tout petit peu vu, je pense, à une autre. Mais ce serait beaucoup mieux.